je veux pas.
J'aime ça.
Grand barbu, là ?
C'est la personne la plus gentille de la Terre.
Je me sens en sécurité, là. C'est impeccable, je suis joie. Ne jetez pas de cailloux.
C'est compliqué, mais on va y arriver.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 5 du podcast Fantasy et Metal où nous parlons des liens très très étroits qui unissent ces mauvais genres de la littérature et de la musique. Épisode 5, disais-je, ce qui signifie, en comptant l'épisode 0 où nous présentions le projet et où nous parlions de notre propre parcours d'amateur de fantasy et de métal, que nous avons lancé ce podcast depuis maintenant un an. Et si quelqu'un peut m'expliquer où est passée cette année, pourtant très pauvre en événements un peu sympathiques, de type festival littéraire ou musical, ou même juste concert, je suis preneuse parce que j'en ai moi-même absolument aucune idée. Donc, autour de la table virtuelle ce jour, comme à chaque fois, nous retrouvons Alessia, bonsoir.
Bonsoir.
Glorung.
Bonsoir.
Et moi-même, Saffron. Donc cet épisode 5 est à nouveau consacré à un groupe, mais après le métal purement symphonique de Nightwish qui faisait l'objet de notre épisode 4, nous passons cette fois au black metal symphonique de Carrack en graines, qui préfère d'ailleurs le terme de horror metal pour des raisons qui vont devenir évidentes très rapidement au cours de ce podcast, histoire de vous prouver à quel point le fantastique imprègne absolument tous les sous-genres du métal. Notez que j'ai bien dit fantastique et non fantasy, mais on peut difficilement prétendre que les deux ne sont pas liés.
Alors, on vous explique ça tout de suite, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-nous une petite remarque pour nos auditeurs qui aborderaient ce podcast par l'angle de la fantasy et qui découvriraient par conséquent le black metal. C'est un type de chant bien particulier. Techniquement, du grunt ou du growl, ça signifie, pour faire simple et clair, que c'est un chant guttural, éraillé, écorché, qui a été défini, construit pour coller aux thématiques et au genre lui-même. Donc si cela vous semble étrange, c'est normal. Inaudible, possible aussi. Cela peut sembler évident, mais apprécier ce type de chant n'est pas inné la plupart du temps et cela s'acquiert, cela s'affine, comme s'affine l'évolution de vos goûts. Un peu comme le chant lyrique, en fait. Alors bonne découverte et bonne écoute à tous.
Pour une fois, la traditionnelle et indispensable biographie du groupe va être courte, car Carrack en graines est un groupe relativement jeune par rapport à ceux qu'on a déjà évoqués jusqu'à présent. Le line-up est super limité et les renouvellements de musiciens le sont encore plus, ce qui a le don de conférer une sacrée cohérence à l'ensemble. Carrack en graines est donc un groupe néerlandais fondé en 2003 en tant que side project par deux musiciens qui évoluaient déjà dans d'autres groupes, le claviériste et orchestrateur Clemens Vigers alias Hardek, et le chanteur et guitariste Denis Droumers, alias Seregor. Oui, c'est du black metal, alors les noms de scène sont toujours super importants et souvent largement plus connus que les noms de baptême des musiciens. D'ailleurs, ce sont ces noms-là que nous utiliserons tout au long du podcast. Le trio est complété à la batterie par le propre frère d'Hardek, Ivo Vigers ou Namtar pour la scène. Et très vite, le succès de Carrack en graines par rapport à leurs anciens groupes est tel que Seregor et Hardek les abandonnent purement et simplement. Petit side project devenu grand, sans doute grâce à une vraie originalité dans le concept. Le black metal symphonique, c'est pas une nouveauté. On peut penser notamment à Dimmu Borgir et Anorexia Nervosa, mais le fait de ne sortir que des concept albums basés sur les histoires de fantômes, le folklore, la littérature gothique, en revanche, c'est beaucoup, beaucoup moins courant. Et c'est bien évidemment ces albums fantastico-gothiques qui nous intéressent aujourd'hui. Niveau line-up, le batteur Namtar a quitté le groupe en 2020 en donnant comme justification une grosse frustration envers l'industrie de la musique. À l'heure qu'il est, Hardek, qui est compositeur et orchestrateur, et Seregor, le parolier, constituent le noyau dur de Carrack en graines et sont les seuls membres officiels du groupe. Hardek a expliqué dans une interview pour Radio Metal que les musiciens qui les accompagneront sur scène et enregistreront avec eux à l'avenir ne sont a priori que des musiciens de session. Quand on vous disait que le line-up est super limité, c'était vraiment pas une exagération.
Alors, avant même de commencer à parler musique, on est un petit peu obligé d'évoquer l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire le nom du groupe. C'est désormais un peu une tradition dans ce podcast. Il nous faut un point Tolkien par épisode, si possible dans les 5 à 10 premières minutes de conversation. Et ce numéro 5 ne fera pas exception. À ce rythme, on n'aura jamais besoin d'enregistrer un épisode spécial Tolkien et métal, parce que tous nos épisodes finissent de toute façon par parler de lui à un moment ou à un autre. Bref, le professeur a encore frappé, car Karakangren est un nom qui sort tout droit de la géographie de la Terre du Milieu. Signifiant « mâchoire de fer » en Sindarin, Karakangren est en fait une passe qui sépare la vallée de Udun, au nord-ouest du Mordor, et le plateau de Gorgoroth, le cœur du pouvoir de Sauron. Et oui, les black métalleux, on vous a tous vu hausser un sourcil à la mention de Gorgoroth, mais ça, ça sera sans doute l'objet d'un autre podcast. Black metal, Mordor, normal, on est dans le thème, jusqu'ici tout va bien. Et si vous ne connaissez pas votre carte de la Terre du Milieu par cœur, contrairement à au moins une personne que nous connaissons bien sur, chez Elbakin, n'hésitez pas à mettre ce podcast en pause pour aller en consulter une sur Internet ou dans une édition quelconque du Seigneur des Anneaux pour vous situer un petit peu.
Alors pour ceux qui nous suivent depuis les débuts du podcast, vous vous souviendrez peut-être que nous avions lourdement insisté, nous avions été maltraités en fait, dans l'épisode consacré à Michael Moorcock, sur le fait que Kiri Sungol se prononce bien avec un C dur, conformément à l'appendice E du Seigneur des Anneaux, et que les membres du groupe ont tort de parler de Ciri Sungol, méchant. Normalement, toujours selon ce même appendice E, le nom du groupe qui nous intéresse aujourd'hui se prononce Karakangren, avec le type de son CH qu'affectionnent les Allemands ou les Écossais. Nart, Lore, tout ça. Franchement, ce n'est ni facile ni marrant à prononcer et surtout, on n'a vraiment pas l'habitude. Alors, nous allons nous en tenir à Karakangren, comme les Français qui parleraient du Loch Ness. Voilà. Ce sera de toute façon mieux que Karakangren, qui est un jour sorti de la bouche d'une attachée de presse. Voilà, voilà. Au-delà du nom du groupe, le nom de scène du chanteur, Sérégor, s'inspire de références étymologiques qu'on trouve dans le Silmarillion. Comme il l'a expliqué dans plusieurs interviews, il s'agit d'un mélange des mots Séreg, qui signifie sang, et de gore, qui veut dire abject. Si l'étymologie est bien valide, en revanche, d'après Maître Fouradan, notre expert S-Tolkien chez Elbakin.net, le nom Sérégor n'existe pas tel quel dans le Silmarillion, ni nulle part chez Tolkien d'ailleurs. Et il s'agit donc de bricolage linguistique. Mais la référence reste bel et bien là, avec un thème tout aussi black metal que la géographie du Mordor.
Mais il n'y a pas que Tolkien dans la vie, et bien avant que le professeur ne révolutionne tout un pan de la littérature avec ses hobbits, les histoires de fantômes étaient légion. Ce sont d'ailleurs précisément les fantômes et les légendes qui les entourent qui informent la plus grande partie de la discographie de Karakangren, et ce, littéralement, depuis leur début. Et quand on dit début, on ne parle pas de leur premier album, mais bel et bien de leur toute première démo autoproduite, The Chasevale Tragedy, sortie en 2004 à 100 exemplaires. Donc si vous voulez l'écouter, il faudra vous contenter de YouTube. On est assez loin des grosses orchestrations qui caractérisent les albums les plus récents, mais on y retrouve malgré tout un petit côté symphonique, ne serait-ce qu'avec les claviers très classiques d'Ardec, et on sent nettement les prémices du Karakangren actuel. Là où rien n'a changé en 17 ans, c'est dans le choix du thème de la démo.
Oui, parce que The Chasevale Tragedy raconte en 4 chansons et environ une douzaine de minutes le mystère du caveau funéraire de la famille Chase, qui se situe dans une église de la Barbade et dont les cercueils sont réputés pour bouger tout seuls. Au début du 19e siècle, à chaque fois que le caveau était ouvert pour accueillir un nouveau membre de la famille, les cercueils, en plomb et donc super lourds, avaient tous mystérieusement changé de place. D'après les folkloristes et les historiens, il semblerait que les témoignages aient été grandement enjolivés au fil des années et donc, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Mais ça reste une histoire de cercueil qui bouge tout seul et il faut avouer que c'est sympa à raconter autour d'un feu de camp ou quand on s'appelle Karakangren dans un studio d'enregistrement. Le gros inconvénient de la démo limitée à 100 exemplaires, c'est que les paroles sont pour ainsi dire introuvables ou en tout cas les recherches que nous avons menées n'ont pas donné grand-chose. Et le chant black metal étant ce qu'il est, c'est assez difficile à démêler comme ça, juste en les écoutant. On n'a donc cette fois pas vraiment d'analyse textuelle à proposer, mais il suffit de se baser sur les titres des chansons comme Paranormal Kinetic Activity ou Sepulchral Disequilibrium pour avoir une petite idée de la teneur des paroles. Et d'ailleurs, voici justement un petit bout de Sepulchral Desequilibrium dans sa version réenregistrée proprement en 2010. Après, en 2005, le groupe remet ça avec une deuxième démo, 10 minutes plus longue que la précédente, et distribuée cette fois à un total absolument exorbitant de 300 exemplaires. Musicalement, malgré sa proximité avec la démo précédente, Ethereal Veiled Existence marque clairement une évolution majeure dans le son, qui est plus que travaillée et polichée pour un EP autoproduit qui a probablement été enregistré dans un sous-sol ou un garage. Donc, encore une fois, il manque un peu d'orchestration par rapport au Carac en graines qu'on connaît aujourd'hui, mais les choses sont clairement en bonne voie pour le groupe.
Cette deuxième démo s'intéresse cette fois à la Dame Brune à Rainham Hall, un fantôme censé hanter un petit château du Norfolk en Angleterre. Le spectre serait celui de Lady Dorothy Walpole, la maîtresse de maison, que son mari très violent et très jaloux aurait enfermée dans ses appartements après avoir appris sa liaison avec un autre homme. Lord Walpole ne l'a plus jamais laissé sortir. Et la pauvre Dorothy est morte de la variole à l'âge pas très canonique de 40 ans. La Dame Brune de Rainham Hall est l'une des histoires de fantômes les plus célèbres du Royaume-Uni, depuis qu'une photo d'une forme spectrale vaguement féminine a été publiée en 1936 dans le magazine Country Life. Il existe évidemment une bonne dizaine de méthodes par lesquelles cette photo aurait pu être truqué, mais l'histoire de la pauvre Dorothy est associée à cette preuve tangible, guillemets. Cette histoire a forcément capturé l'imagination des amateurs d'apparitions fantomatiques, Carac en graines en tête. Cette fois, miracle, les paroles sont disponibles et elles se lisent comme une véritable nouvelle qui commencerait par le rappel de la légende, exactement comme nous venons de le faire dans le titre « The Ghost of Rainham Hall ». Puis se poursuivrait avec les récits de différents témoins dans After Death Premises, Ethereal Veiled Existence, et se terminerait par le compte-rendu de la fameuse photo dans Yonder Realm Photography. Je vous cite un extrait, on l'a traduit pour vous, voilà. Donc, gazing with fear up the staircase, a ghostly shape arose before their eyes. Quick, there is something strange. Click, what the sound that the flashlight pistol and the camera made. They developed a picture that showed a morbid image, apparently of the brown lady. Regardant effrayé vers le haut des escaliers, une forme fantomatique apparut devant leurs yeux. Vite, il y a quelque chose d'étrange. Clac. Fut le son que firent la lampe et l'appareil photo. Ils développèrent une photo où l'on pouvait voir une image morbide, apparemment la Dame Brune. Mais Sir Igor le raconte beaucoup mieux que n'importe lequel d'entre nous. Alors on s'écoute un petit extrait de cette chanson. Like what? Avec Ethereal Veiled Existence, Kara Kangren a vraiment trouvé sa voix et son son, et n'en dévira plus jamais.
Mais assez parlé de démos. Passons maintenant aux choses sérieuses, à savoir les vrais albums, avec plus de 4 chansons et 20 minutes de musique dedans. Premier album studio de Kara Kangren, sorti en 2008, L'âme et dame contient 10 chansons et en a gagné 3 de plus lors de sa réédition en 2013. Il s'agit ici d'un concept album, surprise, axé autour d'un château hanté par le fantôme d'une femme en robe blanche. Pour écrire l'album, Cerigor s'est inspiré d'une légende néerlandaise entendue depuis son enfance et se déroulant dans la forêt de Schinveld, près des frontières belges et allemandes. Le titre de l'album, La Mène d'âme, est d'ailleurs une adaptation de la fameuse expression française « la dame blanche », utilisée pour décrire à peu près toutes les apparitions fantomatiques féminines portant une robe un petit peu palote. Ce nom aurait été donné à un fantôme aperçu par des paysans français, justement, ayant immigré dans cette région pendant la Révolution. Le tout dernier titre de l'album s'appelle d'ailleurs « La malédiction de la dame blanche », qui devient « La malédiction de la madame blanche » dans les paroles. Disons qu'en tant que francophone, la madame blanche, c'est assez hilarant. Écoutez donc par vous-même.
Tâchez d'être entré avant le clair de lune, parce qu'alors, la forêt de Mirabila.
Ce premier album parle donc de diverses histoires de fantômes, poltergeists et autres étranges présences dans les bois, ce qui n'est pas exactement une nouveauté pour Kara Kangren. En revanche, côté musical, on a presque l'impression que le groupe se retient d'en faire trop dans l'horreur metal. Ils se lâcheront un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Comparé à Ethereal Veiled Existence, la démo qui précède La Mène d'âme, dont on vient de parler, la musique est même carrément soft. Et sans les paroles sous les yeux, on pense avoir affaire à un album de Black Sinfo tout à fait classique. On en viendrait presque à croire que le groupe a essayé de masquer son identité déjà très marquée sur les démos avec son passage sur un vrai label.
C'est vrai que pour moi, ça reste musicalement un excellent album, mais j'avoue que l'âme de Kara Kangren manque un petit peu. Mais ils vont remédier à ça très très vite, avec l'album suivant en fait. Sorti 2 ans après La Mène d'âme, Death Came Through a Phantom Ship est axé autour du Hollandais volant, qui est sans doute le plus connu des vaisseaux fantômes censés hanter les sept mers. Ici, il s'agit plus précisément de l'interprétation néerlandaise de cette légende, avec laquelle le groupe a pris quelques libertés pour rendre l'histoire un petit peu plus terrifiante. L'album démarre à une époque, on va dire, contemporaine de la nôtre, puisque c'est un bateau avec des outils de communication électronique qui navigue. Mais une voix sinistre surgit de la radio, maudissant le capitaine, puis un vaisseau fantôme, le Hollandais volant donc, apparaît et les choses tournent mal, étonnamment. Ou pas, hein, d'ailleurs, parce que c'est Kara Kangren, donc généralement ça se passe pas bien. Le capitaine du bateau moderne, pris d'une crise de somnambulisme, tue sa femme et sa fille avant de se suicider. Et ça, ce sont que les 3 premières chansons de l'album, puisque les titres suivants racontent l'histoire de Hendrik van der Decken, le supposé capitaine du Hollandais volant, et la façon dont il a fini par se trouver à la barre du célèbre vaisseau fantôme dont à peu près tout le monde a entendu parler, grâce à la saga Pirates des Caraïbes de Disney. Dans un registre très différent, cet album est tout aussi sinistre que le premier opus. Musicalement, Death Came Through a Phantom Ship a confusionné beaucoup de critiques métal à sa sortie, parce que la structure des chansons s'éloigne franchement des règles, dirons-nous, du black metal classique, surtout en termes de coupures des chansons à certains endroits, etc. En termes d'atmosphère, en revanche, on revient pour le coup au pur horror metal des démos, avec certaines intros mémorables de crépitude. Je pense notamment à celle de Bloodstains on the Captain's Log, ou de Shining with a Portent of Gloom, où ouais, franchement, ça fait peur. Rien que les intros font peur. Bravo les gars de ce côté-là.
C'est aussi avec cet album que Karakangren passe d'un concept narratif, dont on peut lire les paroles comme une nouvelle, à de véritables pièces de théâtre musical. La chanson Al Betekent et Mindoud, s'il y a des néerlandophones qui nous écoutent, je vous présente mes plus plates excuses. Donc, je répète, la chanson, parce que je le refais deux fois, c'est mieux. Al Betekent et Mindoud en est un exemple parfait. Les matelots rappellent au capitaine Van der Decken qu'on n'est pas censé naviguer le dimanche de Pâques. Mais Van der Decken reste le seul maître à bord et est bien déterminé à lever l'ancre, ce jour-là, malgré tout. Al Betekent et Mindoud, ce qui signifie « même si cela doit entraîner ma mort », et parce que la chanson ne dure qu'une minute, on va se l'écouter en intégralité pour que vous compreniez bien ce que l'on veut dire par « pièce de théâtre musicale ».
This storm, lightning, fierce winds and monstrous waves, a demonic tempest, my man complaining, I command, we set sail.
I beg you, my captain, twice as forbidden to stand sail on Easter Sunday.
What? Your God? May he suffocate, may he rot. Keep the Bible close to me, his book of lies I shall now cast into the sea.
This is blasphemy.
You hold your tongue or rip it out and have your hand for mutiny.
Send us into madness.
We shall not obey.
With my knife, I slowly penetrate his tender throat. I curse in rage. God for dummy, lazy and violent. All the tickets and my throat.
Pour l'anecdote, rappelons qu'un certain Richard Wagner a composé un opéra appelé Der Fliegende Holländer. On ne vous fera pas l'insulte de traduire, vous savez de quoi on parle. Vous savez, ce même Wagner dont nous avions déjà parlé dans notre épisode sur la mythologie nordique, pour son travail sur l'anneau des Libellung et la légende de Siegfried. Que les puristes de la musique classique le veuillent ou non, le bonhomme a vraiment posé des bases en matière de métal.
Sautons à présent quelques albums sur lesquels nous reviendrons très vite, ne vous en faites pas. En 2017 sort Dance and Laugh Amongst the Rotten, cinquième opus de Karakangren. L'album est cette fois centré sur une petite fille qui invoque des esprits à l'aide d'une planche de Ouija. On reste sur un concept album très narratif, très théâtral, mais pour une fois pas du tout linéaire. Les chansons sont simplement centrées sur les différents esprits invoqués par la fillette, qui finit d'ailleurs elle-même possédée à la fin de l'album. Parmi les esprits en question, tous plus ou moins vindicatifs, on retrouve notamment la Blood Queen et ses tentatives de divination à travers un miroir qui font penser qu'il s'agit sans doute de la fameuse Bloody Mary. Comme le cocktail. Plus intéressante encore est l'histoire de Charles Francis Coughlan, un acteur et dramaturge anglo-irlandais mort au Texas en 1899. Sa famille, ne sachant pas trop où le faire enterrer, son corps fut d'abord placé dans un cercueil en métal. Un an plus tard, les héritiers n'ont toujours rien décidé, et par un coup du sort qui n'arrive qu'une fois sur plusieurs millions, le cercueil est emporté par l'ouragan de Galveston qui ravage une bonne partie des Caraïbes et du sud des États-Unis en septembre 1900. Il ne sera retrouvé que 7 ans plus tard par un groupe de chasseurs. On comprend que toutes ces aventures mettent un esprit en rogne. Cette chanson, un beau bébé de 8 minutes et son clip illustrent bien l'essence de Karakangren. On va donc en écouter un petit passage.
Atmosphere that forms into one of my natural leaves and prayers. The rest being made makes it so
Anecdote amusante, Dance and Laugh Amongst the Rotten est probablement le seul album de Kara Candlen à impliquer directement l'auditeur. À la toute fin de la dernière piste du disque, on apprend que la boîte qui contenait la fameuse planche de Ouija était possédée et que c'est en l'ouvrant que la gamine a libéré le démon qui la hante. La toute dernière phrase chantée par Segor dit « Did you open the box before hearing this song ?» As-tu ouvert la boîte avant d'écouter cette chanson ? Et Segor comme Hardeck ont déclaré dans plusieurs interviews que c'était une façon de dire qu'en ouvrant la boîte du CD, l'auditeur a lui aussi libéré les esprits. Si vous avez écouté une version MP3, tout va bien donc, mais inquiétez-vous si vous avez ce CD.
Ouf, c'est bon, moi j'ai le MP3, tout va bien, je me sens mieux maintenant.
Idem, ça va, ça me rassure.
Ouais, YouTube, ça compte pas non plus, ça va.
Non, YouTube, ça va, c'est bon, on est bon.
Après avoir fait le tour des légendes et du folklore glauque qui ont inspiré le groupe, passons maintenant aux inspirations littéraires, moins nombreuses certes, mais qui ont tout de même produit de sacrés albums. Et quand on aime les histoires bien sombres et bien horrifiques, on fait difficilement mieux que les contes, pas vraiment pour enfants, de ses chers frères Grimm.
Tout à fait. Donc, sorti en 2015, le quatrième album du groupe, le fort bien nommé This Is No Fairy Tale, est une réécriture moderne et particulièrement douloureuse du fameux conte Hansel et Gretel. Au programme, addiction en tout genre, alcoolisme, abus sexuels sur mineurs, suicide et cannibalisme. Bref, c'est du vrai bonheur en barre. Pas de doute, malgré les orchestrations toujours plus travaillées, il s'agit bien de black metal et Kara Candlen n'a clairement aucune envie d'abandonner son côté sinistre. Il s'agit même probablement, jusqu'à ce jour, de leur album le plus porté sur l'horreur et il associe de particulièrement atroce que l'horreur à laquelle ces Hansel et Gretel d'un genre nouveau sont confrontés commence au sein de leur famille. Et même si les paroles évoquent un clown qui offre des sucreries aux enfants qui ont fini par s'enfuir de chez eux et leur promet une maison en pain d'épices, et ben manque de bol, il s'agit en fait d'un serial killer qui entend la voix d'une sorcière dans sa tête. Tout va très bien. Au final, attention spoiler, il s'avère que ce conte pas du tout féerique se passe entièrement dans la tête de la petite Gretel dont les cauchemars à base de tueurs en série qui la force à manger le cœur de son frère, reste apparemment préférable à ce que lui fait subir son alcoolique de père. On vous passe tout de suite un petit extrait de « There's no place like home ». Musicalement, on sait maintenant à peu près à quoi s'en tenir. Au niveau des paroles, en revanche, c'est sans doute l'album le plus malsain, le plus violent et le plus sombre que Segor ait jamais écrit. Et vu tous les sujets tordus qu'on a déjà évoqués jusqu'à présent dans ce podcast, c'est quand même pas peu dire. Pour moi, lyriquement parlant, This Is No Fairy Tale est plus black metal que tous les albums faisant l'éloge du satanisme jamais sortis mis bout à bout. J'avais qu'une conscience partielle des paroles avant d'écrire ce podcast et je ne veux plus jamais les relire dans leur intégralité, comme j'ai dû le faire pour écrire cet épisode, parce que c'est tout simplement atroce. Et c'est sincèrement dans ces moments-là qu'on remercie le chant black metal de masquer une grande partie des paroles. Vraiment, c'est douloureux à lire Et encore une fois, c'est d'autant plus épouvantable que ben on se dit qu'il y a un sacré paquet de pauvres gosses quelque part sur cette planète qui doivent subir exactement ce qui est raconté dans les paroles. Et franchement, voilà. Plus jamais je veux lire ces paroles. Voilà.
Et je vais rien dire, mais moi c'est pareil parce que j'ai écouté l'album, pas de problème, ne faisant pas particulièrement attention. Et une fois que j'ai lu les paroles, j'ai fait. Je l'ai pas remis depuis, bizarrement.
C'est fou, hein, c'est celui qu'on va éviter maintenant.
Ouais.
Tu mets Cara Gangrène, tu mets This Is No Fairy Tale. Non, je zappe parce que maintenant je sais de quoi ça parle. Je ne veux plus en entendre parler.
C'est dommage parce que.
Parce que c'est vraiment, c'est musicalement, c'est musicalement, un super bon album.
Il est vraiment top. Mais alors là, du coup, maintenant, je te dis, non.
Oui, tu voulais dire quelque chose, Glorum.
Ouais, c'est typiquement pour ça qu'on vous a dit en début de podcast que c'est un chant guttural, éraillé, etc., qui colle bien aux paroles, en général, tout ce qui est black metal. Donc, c'est un bel exemple.
Voilà, c'est ça. On s'amuse pas dans le black metal. Généralement, on rigole pas. Hein. C'est pas bien drôle. Hein.
D'ailleurs, en parlant de rigoler, on va passer à l'album suivant. La littérature gothique du 19e siècle semble une source d'inspiration idéale pour un groupe aussi axé sur le fantastique et l'horreur. Et on est franchement en droit de se demander pourquoi Cara Gangrène a attendu 2020 pour sortir un album inspiré de Frankenstein de Mary Shelley. Frankensteina Stratemontanus, c'est son petit nom. Allez-y, essayez de le dire 10 fois très vite sans vous faire des nœuds à la langue. Donc ça vient du titre plus ou moins honorifique que s'était attribué à l'université un certain Johann Conrad Dippel, né au château Frankenstein en Allemagne. Un occultiste, alchimiste et médecin allemand dont les œuvres inspirèrent supposément le personnage de Victor Frankenstein à Mary Shelley. Cette hypothèse fut d'abord suggérée par Radu Florescu dans son livre intitulé « À la recherche de Frankenstein ». Et où il partait du postulat que Shelley, qui s'appelait encore Marie Wollstonecraft à l'époque, avait visité ce château pendant ses voyages avec Percy Shelley, et que c'est là qu'elle aurait potentiellement entendu les histoires que les locaux racontaient sur Dippel, déjà entouré d'une aura légendaire pour ses travaux alchimiques pas très catholiques, qui consistaient notamment à essayer de trouver de l'élixir de vie et à injecter une âme dans des animaux morts. Florescu note que les Shelleys ont fait référence à une brève rencontre avec des étudiants de l'université de Strasbourg, où Dippel avait été étudiant pendant qu'il visitait les environs du château Frankenstein. Ces étudiants auraient alors pu leur parler des expériences de Dippel. Qui plus est, le château Frankenstein abritait souvent les lectures publiques d'un cercle littéraire nommé Kreis der Empfindsamen et dont Percy Shelley connaissait plusieurs membres. Conjecture.
Mais le cher Radu Florescu aurait peut-être tout simplement pu lire l'introduction de la 3e édition de Frankenstein ou le Prométhée moderne, car Mary Shelley elle-même donne une autre version de l'histoire. La traduction a été faite par nos soins, car dans les éditions françaises, je ne l'ai pas trouvée tout simplement. Alors voici ce qu'elle écrit. « Nombreuses et longues furent les conversations entre Lord Byron et Shelley. Conversation que j'écoutais avec dévotion, mais où je restais silencieuse. Pendant l'une d'entre elles, plusieurs doctrines philosophiques furent évoquées, et parmi elles, la nature du principe de la vie, et s'il y avait une chance qu'il soit un jour découvert et étudié. Ils parlèrent des expériences du docteur Darwin. Je ne parle pas de ce que le docteur fit réellement, ou ce qu'il dit avoir fait, mais de ce qu'on lui attribuait. On disait qu'il avait conservé un bout de vermicelle, et que par quelques moyens extraordinaires, le bout de vermicelle commença à se mouvoir. Quand je mis ma tête sur mon oreiller, je ne parvins pas à trouver le sommeil, mais je ne parvenais pas non plus à réfléchir. Mon imagination, libérée, possédée, me guidant, m'offrit une succession d'images qui prirent vie dans mon esprit avec une vivacité rare, bien au-delà des limites de la rêverie. Je vis, avec les yeux fermés, mais avec une extrême précision, je vis un étudiant pâle, dévolu aux sciences impies, s'agenouiller auprès de la chose qu'il avait assemblée. Je vis ce fantasme hideux d'un homme étiré, puis grâce à quelques machines puissantes, je le vis montrer signe de vie et s'agiter avec des mouvements malaisés, semi-vivants. Deux genèses, mais une même œuvre, iconique pour le moins.
Faut-il rappeler accessoirement que Mary Shelley avait quelque chose comme 18 ou 19 ans quand elle a écrit Frankenstein ? ça fait se demander. Et toi, tu fais quoi de ta vie en ce moment? Bah, écoute, j'écris des podcasts. voilà.
Non, moi, ce que je trouve aussi absolument merveilleux, c'est le fait que elle part déjà. Bon, enfin, déjà, elle part en vacances avec Lord Byron et Shelley. Mais s'il vous plaît, mais emmenez-moi, quoi. Prenez-moi en vacances. Que ça part d'une discussion à trois en disant qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah tiens, si on se faisait un petit défi littéraire, on va se donner une thématique et on voit ce qui en ressort. Bah voilà.
On a vu. Et ce qui est marrant, c'est que les deux autres ont fait ça totalement en dilettante. Byron et Shelley ont fait le truc sans en avoir strictement rien à fiche. En fait, ils l'ont fait parce qu'ils s'étaient lancé un défi et voilà. Et Mary Shelley, elle a sorti Frankenstein et au secours, quoi.
Après, tu as quand même Shelley qui a sorti Prometheus Unbound quelques années après. Enfin, il y a un lien aussi là-dedans, mais c'est vrai que elle a drop le mic,
elle a pris le défi super au sérieux et elle nous a
pris vraiment.
Et j'ai 18 ans. Voilà, tout va bien. Merci, au revoir. Je sais ça, exactement.
Bon, après, non plus, elle n'est pas... ce que les gens omettent souvent aussi, c'est que Mary Shelley était donc Mary Wollstonecraft et que sa mère était une femme très cultivée, très érudite qui s'était impliquée dans les luttes féministes en Angleterre et son père était un scientifique et un chercheur. Donc,
Il y avait une bonne base.
Ils
n'ont pas raté l'éducation de leur fille, voilà.
Non, puis elle a passé son temps et sa jeunesse entourée des connaissances de son père qui venait à la maison, etc. Donc elle a été, c'est aussi, enfin l'âge n'est pas si surprenant quand on sait l'éducation qu'elle a eue de façon à la fois directe et indirecte.
Ça reste surprenant en 2021 quand tu te dis que à 18 ans, normalement, tu passes ton bac si t'as de la chance et que t'es content à la fin, en fait.
C'est ça. Mais t'es pas censé t'échapper avec Shelley pour te marier contre la vie de tout le monde.
C'est ça, exactement. Et encore moins Byron dans le lot. Enfin, bref. Mais la coïncidence qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que... Hardeck a expliqué avoir eu un début d'idée de thème pour l'album Frankenstein Astrate Montanus suite à un cauchemar dans lequel il entendait un air au piano qu'il est allé lui-même enregistrer dès qu'il s'est réveillé, hein, étant un artiste. Ça marche comme ça, les artistes, bizarrement. Mais dans ce même cauchemar, lui est également apparu le portrait d'un vieil homme acariâtre qu'il ne connaissait pas du tout. Et quelques temps plus tard, c'était en 2018, et il se trouve que 2018 était le bicentenaire du roman de Mary Shelley. Du coup, en visitant une exposition aux Pays-Bas consacrée à Frankenstein, il s'est rendu compte que le vieil homme en question était en fait Johann Diepel, la supposée inspiration de Victor Frankenstein. Boum, résultat, Frankensteina Strate Montanus. Donc, je sais pas à quel point cette histoire est vraie ou pas, mais toujours est-il que j'ai eu la chance d'interviewer Hardeck et Sérégor pour la sortie de Frankenstein Astrate Montanus. Et quand Hardeck racontait cette histoire, il la racontait avec le plus grand sérieux, avec la plus grande honnêteté. Et voilà, quoi. Et les deux histoires, donc de Mary Shelley qui a écrit Frankenstein après un cauchemar et de Hardeck qui a commencé à envisager Frankenstein Astrate Montanus après un cauchemar, sont finalement super liés. Voilà. Coïncidence ou pas, je ne sais pas. On n'en saura pas sans doute pas plus, mais bon, voilà.
Je suis pas sûr qu'on fasse bien d'enregistrer ce podcast en soirée. On va pas bien dormir.
Non, puis du coup, moi, ça me fait penser au tableau de Fusilli, en fait, le cauchemar. T'as une femme qui dort et en fait la nature du cauchemar c'était, on pensait aussi que c'était quelque chose qui était dans l'estomac en fait et qui pesait sur l'estomac littéralement, et en fait la femme qui dort a un petit démon qui lui, un petit succube qui lui pèse sur l'estomac, tu vois, littéralement donc, pour l'empêcher de bien dormir. Et à l'arrière du tableau qui surgit d'un rideau, tu as littéralement une jument parce que the nightmare qui est là pour
joke, oh là 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 là, d'accord.
Et voilà, et du coup, ça me fait penser à ce... Bon, bref. Mais Oui, voilà. Il y a des gens qui essayent de dormir et il y en a d'autres qui se réveillent et qui disent, tiens, d'autres qui j'ai entendu une petite puis, musique,
ouais, j'y vais. Je vais aller l'enregistrer et peut-être que je peux en faire quelque chose. Mon Dieu, ces artistes, je vous jure.
Alors, je me permets de vous citer des extraits de chansons et donc on va en parler juste après. Donc, dans une des chansons, vous avez « I made him with these hands, he's just resting, waiting ». For a new life to come. Oh, in the name of God. Now I know how it feels to be God. I'm God. Alors, j'espère qu'il ne le dit pas avec un ton aussi enjoué. Hey, I'm God.
I'm God.
Yay. Je l'ai fait de mes mains. Il se repose simplement, attendant qu'une nouvelle vie vienne. Oh, au nom de Dieu, maintenant je sais ce que cela fait d'être Dieu. Je suis Dieu. Et donc là, vous avez, bon, évidemment, la référence à Dieu, mais aussi, pour rappel, on a dit tout à l'heure que Frankenstein, c'était Frankenstein ou le Prométhée moderne. Donc Prométhée, voleur de feu, créateur des hommes nés de la glaise et à qui Athéna a donné le souffle vital. Et là, Kara Kongren a bien mis en musique cette notion de Frankenstein comme le nouveau Prométhée, celui qui transgresse et brise les règles, ici, avoir donné la vie. Donc on va d'ailleurs écouter un extrait de Frankenstein, Stratemontanus. Dans le texte de Mary Shelley, l'éveil de la créature ne suscite que dégoût. Je cite le roman. Ce but, j'avais cherché à l'atteindre avec une ardeur immodérée. Mais maintenant que j'y étais parvenue, la beauté de mon rêve s'évanouissait et j'avais le cœur rempli d'épouvante et de dégoût. Les rêves dont je m'étais nourrie et qui avaient soutenu mon exaltation devenaient à présent un enfer. Le changement avait été si brutal, la désillusion si complète. Pauvre créateur, il vient de comprendre ce qu'était la définition d'un fantasme et pourquoi celui-ci ne devait pas prendre vie. Inject the bone oil, pull the lever, live, live, it twitched, it's alive. Prometheus, arise, my son, breathe, open your black eyes, it's alive. Là, c'est un extrait de The Necromancer. Injecte l'huile d'os. Tire le levier et non tire le levier cronk. Les vrais savent.
Les vrais savent.
Vie, vie, il a bougé, il est vivant. Prométhée se dresse. Respire, mon fils. Ouvre tes yeux noirs. Tu vis. Là, mon côté littéraire a été un petit peu dire qu'est ? Prométhée, mais c'est le fils de qui ? Cela me rappelle quand les gens appellent la créature de Frankenstein Frankenstein. Alors que Frankenstein est le nom de son créateur et que la créature elle-même n'a pas de nom, vu que une fois qu'il lui a donné la vie, il la rejette complètement, il la renie, et qui plus est dans le texte, la créature a les yeux jaunes. Donc, et puis techniquement, c'est pas l'amour filial qui étouffe Victor Frankenstein, car lors de l'éveil de son engeance, il parle de misérable et de démon. Merci papa. Mais c'est intéressant car le lien est bien fait avec Frankenstein grâce à l'utilisation de l'électricité dans le texte original. Sparks, c'est dans le texte original, Mary Shelley parle de Sparks qui est un double sens bien pratique, à la fois littéral et métaphorique, l'étincelle. Mais elle ne parle pas réellement d'électricité. Si vous reprenez tout le chapitre où Frankenstein explique ses recherches, il va passer son temps à dire « j'ai travaillé très très dur, j'ai passé mes journées à travailler, vraiment, j'ai fait que bosser ». Sur quoi ?
Mais sur quoi, exactement ?
Mais sur quoi ?
C'est pas précis.
Non, non, il n'y a absolument aucune précision. Il explique qu'il déterre des cadavres, qu'il fait des trucs pas super sympas, bon, parce que quand même, aller déterrer des cadavres de nuit, bon, flûte, quoi. Mais non, non, il n'y a vraiment aucun détail sur la machinerie, si vous voulez, qui peut ramener à la vie la créature de Frankenstein. J'allais faire l'erreur que je viens de citer. Mais alors que Mary Shelley elle-même était bien au courant des expériences des Galvani à l'époque sur l'électricité qui permettait de déclencher des contractions musculaires. Et c'était un grand spectacle à l'époque. Il y avait même eu, dans le genre « Viens, on fait des trucs glauques », des gens qui avaient été invités à voir justement des expériences menées ainsi sur un prisonnier où il lui avait injecté de l'électricité dans l'œil en disant « Ah, regardez, ça bouge !» Oui, d'accord, ok. Et non, il y avait plein de choses sympas qui se passaient comme ça à l'époque, mais elle, dans son roman, ça reste extrêmement vague. La notion d'électricité, en fait, nous vient du cinéma et c'est rigolo qu'on la retrouve dans les paroles parce que voilà, l'inspiration est tant visuelle que littéraire.
Mais finalement, c'est pas si étonnant que ça, parce que effectivement, dans la fameuse interview que je citais, qu'on a effectuée avec Hardeck et Sérégor en 2020, début 2020, il expliquait que en gros, Hardeck a lu le bouquin et Sérégor est un grand fan de films d'horreur qui a surtout vu les films. Et comme c'est Sérégor qui écrit les paroles, finalement, ça n'a rien de surprenant qu'il ait fait ce lien avec l'électricité, parce que, comme tu le dis, il aura basé ses paroles bien davantage sur ce qu'il aura vu au cinéma plutôt que sur le texte lui-même, en fait.
Mais moi, avant de lire le roman en entier, vraiment, pour le coup, j'étais aussi persuadée que ma représentation de la naissance de la créature, c'était vraiment ça, hein, le c'était le film de Tim Burton avec la table, les éclairs, la table, la pluie, et en fait, pour quelqu'un qui a vu les films, lire l'éveil de la créature, tu fais ça y est.
C'est beaucoup moins par rapport à la scène du cinéma, la scène du livre est beaucoup moins excitante, entre guillemets.
Oui, parce que l'intérêt n'est pas là.
C'est ça, l'intérêt n'est pas là. Et puis, accessoirement, dans les films, on fait souvent quand même de la créature de Frankenstein une créature à peine capable de parole, limite débile, qui n'a aucun sentiment, etc., alors que c'est tout le contraire. Dans le livre, c'est une créature douée de conscience, qui a des sentiments, qui se sent rejetée, qui est pas bien. Je veux dire, il a besoin d'un psy, cette pauvre créature de Frankenstein. Donc, c'est vraiment.
Il a surtout conscience de sa propre existence, plus que certains humains, et de sa propre condition et de sa mortalité, et du fait qu'il a été créé, mais qu'il est seul. Et il passe son temps à essayer de se lier avec des humains qui n'ont d'humain que le nom et qui vont passer leur temps à le rejeter.
C'est ça. Donc, c'est vraiment là qu'on voit la différence entre l'écrit et ce que le cinéma, surtout le cinéma des années 30-40, a fait de la créature de Frankenstein.
Idem pour Dracula, d'ailleurs.
Oh, tout à fait, effectivement.
Oui, parce qu'en années 30-40, tu prends des films plus récents, style le Van Helsing, qui est sorti au début des années 2000. La créature de Frankenstein, elle se réveille tout pareil, avec plein d'éclairs, avec... des trucs dans tous les sens. C'est sûr qu'au cinéma, visuellement, c'est plus sympa avec des éclairs.
Mais c'est plus sympa avec des éclairs. Et puis, les sentiments de la créature au cinéma, on s'en fiche, quoi, finalement. C'est pas ça qui fait l'intérêt de la chose. Donc, voilà. C'est les éclairs et c'est la grosse bestiole qui avance. Voilà, c'est Pikachu qui avance avec les bras devant, limite zombie, et qui va tuer des gens derrière, quoi. Oui, mais non, c'est pas ça du tout, le roman, en fait. Lisez le roman, c'est bien le roman. Bref, nous digressons.
Dans les chansons de 2 et 3, il y a aussi des références au mythe faustien. J'ai conclu un pacte en échange de mon âme. Johann Dippel a été accusé de son vivant d'avoir conclu un pacte avec le diable, même s'il semblerait que le but de ses travaux était plus l'obtention d'un élixir de vie. La chanson « Son for Solitude » est bien plus proche du texte. La créature, de par son apparence, n'arrive à se lier avec personne. Il se rapprochera des deux Lassie, les observant de loin, s'attachant à cette famille sans l'approcher. Il échangera avec le père avant de se faire chasser par les enfants. Ayant trouvé les notes de Victor sur sa création, il décide alors de préparer sa vengeance. Après, le reste de l'album s'éloigne de l'ouvrage et de la figure même de Frankenstein pour évoquer la Deuxième Guerre mondiale, les vampires et les expériences de Frédéric II de Prusse sur le langage, particulièrement horrible.
Ouais, si vous n'êtes pas au courant, on va pas en parler là parce que c'est assez traumatisant, mais googlez les expériences de Frédéric II sur le langage. C'est... Heureusement qu'on n'enregistre pas ça à Halloween parce que là, on n'aurait pas réussi à dormir après, effectivement.
Et c'est la preuve que des fois, quand on a une idée, vaut mieux pas la suivre.
C'est ça, c'est typiquement ça. L'enfer est pavé de bonnes intentions, messieurs, dames. Voilà, mais... Autant cette expérience de Frédéric II est effectivement une chanson bonus qui n'a rien à voir avec la choucroute, même si effectivement ça fait complètement froid dans le dos, autant les deux autres que tu as évoquées ont tout de même un vague lien avec Deeple et Frankenstein. C'est-à-dire que la chanson Operation Compass, la fameuse chanson consacrée à la Seconde Guerre mondiale, fait référence à une opération militaire conduite par les Britanniques contre les Italiens, en 1940, il me semble, dans le désert de Libye. L'objectif était d'empêcher l'ennemi de se défendre en rendant l'eau des puits, imbuvable. Et pour ça, les Britanniques ont déversé dans les puits une huile d'origine animale, super visqueuse, qui ressemble un peu à du goudron et qu'on appelle en anglais « Deeple's Oil », soit l'huile de Deeple, puisque c'est en fait lui qui l'a créée en clamant à l'époque qu'il s'agissait de l'élixir de vie. La bonne blague dans cette histoire, c'est que l'huile n'étant pas mortelle si elle est ingérée, son utilisation à l'époque n'a pas été jugée comme allant à l'encontre de la Convention de Genève. Dans ce moment-là, permettez-moi de dire un énorme lol, parce que même si l'huile elle-même n'est pas nocive à proprement parler, elle a quand même rendu l'eau de toutes les pluies du désert de tous les puits du désert de Libye totalement imbuvable. Donc, ça a quand même tué des gens. Moi, je dis ça, je dis rien.
Quant à cette... C'est vrai qu'ils avaient trop de puits.
Oui, c'est vrai, c'est bien connu. Le désert, c'est bien connu pour être riche en eau, vers laquelle on peut se tourner pour... bref. Quant à cette histoire de vampire, le titre de la chanson, en fait, c'est « Der Vampir von Nürnberg », elle parle d'un individu pas très, très recommandable... un certain Kuno Hoffmann, qui avait la très vilaine habitude dans les années 70, du côté de Nuremberg, donc, de tuer des gens pour ensuite les violer et boire leur sang. Donc, Térégor expliquait dans une interview pour Radio Métal, dans cette fameuse interview que j'arrête pas d'évoquer depuis tout à l'heure, qu'un vrai monstre, en fait, c'est ça. C'est un humain qui part en vrille et certainement pas une pauvre créature fabriquée de toutes pièces par un savant fou dans un labo à qui on n'a jamais demandé son avis et qu'on va ensuite abandonner à son sort. La vraie monstruosité, elle se trouve chez les humains. Donc, sur cette note totalement riante, parlant de serial killer, nécrophile et buveur de sang, si vous n'avez jamais lu Frankenstein et que vous voudriez donner sa chance au bouquin, mais pas en VO, parce que l'anglais du début du 19e siècle, c'est pas simple, sachez que Bragelonne a sorti une très belle édition reliée en octobre 2021, donc. Alors oui, je sais, Brage n'est pas exactement en odeur de sainteté en ce moment, mais ça n'enlève rien à la qualité de leur publication. Et cette nouvelle édition de Frankenstein a vraiment l'air superbe. Et en cette période de l'année, disons que ça peut constituer un beau cadeau de Noël, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Nous, on dit ça, on dit rien. Vous faites votre liste au Père Noël comme vous voulez. Oui, Alessia ?
Oui, et si on veut finir aussi sur une note positive, Deeple n'a pas fait qu'essayer de réanimer des animaux ou d'essayer de se rendre immortel. Il a aussi inventé le bleu de Prusse.
Ah oui, d'accord. Ok. c'est vraiment
random,
une note positive.
Mais... oui, puis on ne sait jamais, pendant un dîner de famille, c'est comme ça, d'un seul coup, vous voulez couper une conversation qui vous ennuie. Vous faites « Ah, est-ce que vous savez qui a inventé le bleu de Prusse ?»
Ou au Trivial Poursuite.
Ouais, ça
peut être vachement utile.
Random, ça sert toujours.
Exactement, exactement.
Alors, ceux qui connaîtraient la discographie de Kara Kangren par cœur, ou qui auraient ouvert Metal Archive pour suivre la chronologie, on ne sait jamais, il y en a peut-être, vous aurez remarqué que jusqu'à présent, un seul album n'a pas été évoqué. Cas unique dans la discographie du groupe, Where the Corpses Sing Forever, sorti en 2012, ne se base ni sur une légende urbaine, ni sur une histoire de fantôme, ni sur un bouquin destiné à effrayer les petits et les grands. Non, cet album-là parle de la guerre. Et plus spécifiquement, des deux dernières guerres mondiales et de la guerre du Vietnam. Le premier titre, An Ominous Recording, est une intro sous forme d'enregistrement d'un soldat à qui on ordonne d'exécuter 7 prisonniers. Des prisonniers qui semblent très amusés à l'idée de leur mort prochaine et qui ont bien du mal à passer l'arme à gauche. Même dans un contexte d'horreur normale, avec toutes les guillemets du monde, ou en tout cas d'horreur réaliste, Kara Kangren arrive à en rajouter une couche avec des paroles qui évoquent allègrement démons et apparitions spectrales. On parlait tout à l'heure d'intro flippante, mais moi, celle-ci, me... voilà. Spectral Infantry Battalions dit ainsi. Battle formations, dead, but still wandering ahead. A gigantic apparition keeps rising from a field, once colored red, from bloodshed. Spectral infantry battalions, marching through a freezing timeless void. Again, ghostly cavalry, a regiment shall ride the lands that once destroyed. Soit, en bon français, formation de bataille, morte mais pour toujours en errance, une immense apparition ne cesse de surgir d'un champ de la couleur du sang. Des bataillons d'infanterie spectrale marchent à travers un vide intemporel et glacé. Une fois de plus, les régiments de cavalerie fantomatique parcourront les régions qu'ils ont un jour détruites. Et comme c'est toujours mieux quand c'est Sérégor qui le dit, en voici un petit extrait.
Toujours sur le même album, Little Hector, What Have You Done est à la fois une histoire sur les horreurs de la guerre et les maisons hantées qui en ont trop vu et trop entendu. Mais en fait, c'est qu'à la toute fin de l'album, avec le titre These Fields Are Lurking, Seven Pairs of Demon Eyes, qu'on réalise, attention spoilers, que les prisonniers que le narrateur a dû exécuter étaient en fait des démons. Et qu'ils ont piégé son âme dans une boucle temporelle afin de le faire souffrir pour l'éternité. Donc je cite les paroles de cette toute dernière chanson. « He ends up where it all began, seven pair of demon eyes, seven fearsome demon smiles, trapped in a paranormal chain, bound to suffer endless warfare, torture, fear and pain. So ends this tale of fates aligned, a prophecy of war entwined into bloody knots that won't unwind. » This ominous recording is all that's left behind. Sunday, October 3rd, 6 p.m. Rain. Traduction. Il se retrouve là où tout a commencé. Sept paires d'yeux démoniaques, sept sourires démoniaques terrifiants. Coincés dans une chaîne paranormale, condamnés à subir à tout jamais la guerre, la torture, la peur et la douleur. Ainsi se termine l'histoire de ces destinées alignées. Une prophétie guerrière, des nœuds sanglants qui ne peuvent se défaire. Cet enregistrement sinistre est tout ce qu'il reste. Dimanche 3 octobre, 6 heures du soir, pluie. Ce qui est en fait le début de l'album, d'où la boucle temporelle. Et les hurlements fichent carrément des frissons, très honnêtement. Bah du coup, en résumé, quand Kara Kangren ne s'appuie pas sur des histoires horrifiques existantes, il invente purement et simplement les siennes. Je vais vous dire, personnellement, c'est le seul album du groupe dont l'ambiance musicale me met franchement hyper mal à l'aise, dans le bon sens du terme, si une telle chose est possible. Techniquement, c'est le moins horrifique dans le thème, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont compensé ça par un paysage sonore encore plus dark et dérangeant que dans les autres albums. J'écoute cet album, j'ai vraiment un sentiment de malaise total, quoi. Mais en bien. De bien-être je ne sais plus, du coup.
Oui, pourtant, les autres albums mettent déjà la barre assez haut hein, sur le côté malaise, que ce soit moins sur la musique, mais plus sur les paroles, etc. Moi, d'une manière générale, par rapport au groupe, j'aime vraiment beaucoup l'esthétique de Karakangren, notamment certains clips qui sont très jolis, très travaillés, mais ce ne sera pas une nouveauté pour vous deux. J'ai du mal avec le black metal d'une manière générale, aussi oui. En termes de voix que de rythme, souvent trop rapide pour moi. Oui, c'est dingue, hein, c'est une nouveauté. Surtout d'ailleurs au niveau de la batterie. Je ne suis pas un fan de blast beat et de double pédale et tout ça. Ça écorche mes petites oreilles. Donc, ce n'est pas un groupe coup de cœur, mais j'apprécie notamment Da Vampire for Nuremberg ou Frankensteinia Stratemontanus pour son clip et ses chœurs, que je préfère largement au chant de Cérégor. Et je trouve certaines pistes de l'album sur le Hollandais volant très sympathiques, comme la première qui dure qu'une petite minute, ou la sixième piste du même album dont a parlé Alessia plus tôt en prononçant son titre, ce que je ne ferai pas. Mais voilà, c'est des chansons qui m'ont bien plu. Et à titre personnel, je connaissais déjà les films à ne pas regarder avant de dormir le soir, les jeux vidéo à ne pas jouer avant de dormir le soir. Maintenant, je connais les albums de musique à ne pas écouter avant de dormir le soir. C'est intéressant.
C'est un nouveau contexte. On ne pensait pas que ça existait. Mais voilà.
Moi, je les ai découverts en live, en première partie de Septic Flesh, dans une petite salle parisienne dont le nom m'échappe. Je n'ai jamais réussi à retrouver le nom de la salle. Je me rappelle que la salle était petite, qu'on a eu un moment de grande peur parce que d'un seul coup, il y avait de l'eau sur scène et on s'est dit... Bref.
Quand il y a des instruments électriques, c'est jamais une bonne chose.
Non, c'était pas... Voilà. Déjà, quand on les voit arriver sur scène, donc vous imaginez bien le contexte, moi, je venais voir Septic Flesh, j'avais pas du tout fait attention à la première partie. C'est mal, je sais, mais j'avais... Et du coup, j'arrive, je les vois arriver sur scène et je me dis déjà, ok, déjà rien que visuellement, quand ils débarquent sur scène, il y a toute une ambiance qui va avec. Voilà, j'ai tout de suite adoré les choix visuels, musicalement, je suis restée complètement scotchée. Après, pour les paroles, j'avoue que comme on ne peut pas dire qu'il articule des masses, les références mortifères m'ont échappé, c'est peut-être pas plus mal, je pense. Mais du coup, voilà, moi, j'étais vraiment limite un peu déçue de voir ces petites flèches arriver, ce qui ne m'arrive pas souvent quand même. Mais j'ai pas vu passer le concert, en fait. J'étais là, déjà, quoi ? Mais c'était vraiment très, très bien. Et c'est vrai que depuis, je les écoute régulièrement et avec plaisir. Enfin, un peu moins depuis que j'ai lu toutes les paroles. Mais je vais passer outre. Ça va revenir. Je compte sur ma mémoire de poisson rouge.
Ce que tu disais à propos du visuel, c'est un truc qu'on n'a pas précisé non plus au début du podcast pour les gens qui viendraient du côté fantasy sans rien connaître au black metal. L'une des grandes caractéristiques du black metal, c'est le corpse paint. C'est les musiciens ont tous tendance à être maquillés lourdement en noir et blanc avec des dégoulinures de trucs sur le visage. Et ça donne tout de suite une ambiance particulièrement glauque à un concert. Le corpse paint fait partie du black metal autant que le chant, qui est quand même hyper caractéristique, et autant que les thèmes complètement glauques. Et voilà quoi. Donc oui, sur scène, ça doit rendre un sacré quelque chose quoi.
Oui, surtout que le corpse paint de Karakangren, ils se sont fait vraiment des têtes de squelettes avec les lèvres noires et des fausses dents, les joues vraiment très très creusées, ce qui fait que quand le chanteur crie, bah évidemment ça creuse vraiment ses joues comme comment il s'appelle l'autre là sur le dragon de glace. The Night King, non ?
Oui, The Night King, ouais, c'est ouais, dans Game of Thrones, ouais.
Voilà, c'est ça. Bah, si vous voulez avoir une idée de ce que ça donne, c'est un peu ça, clairement. Ça lui fait un visage très émacié. Visuellement, c'est impressionnant.
Ce qui est dommage, parce que le Cérégor, il n'est pas désagréable à regarder dans la vraie vie, donc c'est presque dommage, le Corpse Paint, en fait.
Je crois que je n'ai jamais vu sa tête sans rien.
Bah, pour ma part, en fait, bah, je l'ai évoqué déjà plusieurs fois, mais j'ai découvert Cara Kangren très récemment, en fait, en janvier 2020. Le directeur de la rédaction de Radio Metal m'avait dit « Il y a ce groupe de black metal qui passe à Paris faire de la promo, tu peux y aller ?» Parce qu'en gros, on a besoin de l'interview. Et moi, en face, black metal, blabla, pas intéressé, j'aime pas. Oui, mais c'est du black sinfo. Ah bah oui, ok, tout de suite, tu me prends par les sentiments, forcément, hein. Et donc, j'ai écouté Frankenstein Astratemontanus. J'ai absolument adoré. Et j'ai embrayé avec tout le reste de la discographie. Et ce que j'adore vraiment, c'est ce groupe, c'est sa capacité à créer une ambiance, comme tu disais très bien tout à l'heure, Alessia. Au niveau musical, c'est hyper immersif. Et je trouve que Cérégor est un acteur et un conteur absolument exceptionnel. Der Vampir von Nürnberg sur Frankenstein Astratemontanus, dont Laurent a déjà parlé, en est un exemple absolument parfait. Et d'ailleurs, dans toutes ses interviews, Hardek n'arrête pas de le répéter, Cérégor est un acteur, avant toute chose. Avant d'être un très bon vocaliste de black metal, Cérégor est un acteur. Et en écoutant toute la discographie un soir avec mon compagnon, on s'est fait la réflexion que même quand on comprend pas nécessairement les paroles, parce que encore une fois le chant black metal a démêlé, surtout quand t'as quelques verres de vin dans la tronche, vas-y bon courage, on sent que Cérégor raconte une histoire, même si on comprend pas les paroles. Chaque album est vraiment un petit monde autonome, c'est presque l'équivalent d'un opéra. Même si l'histoire n'est pas forcément linéaire ou que les liens entre les chansons sont assez distendus, comme cette histoire d'huile sur Frankenstein Astratemontanus. Et en plus, pour les avoir rencontrés, Hardek et Cérégor, c'est des mecs absolument adorables. Donc pour le mythe du black métalleux qui mange des enfants au petit-déj, avec ces deux-là, clairement, on repassera, quoi. Parce que oui, les paroles sont atroces. Oui, le Corpse Paint fait peur, mais en fait, ils sont c'est des bisounours, quoi. Donc j'ai pas encore eu la chance de les voir en live, mais j'ai bien l'intention de remédier à ça l'an prochain. D'autant que le mini live report d'Alessia donne bien envie quand même.
Frankensteinia Stratemontanus étant sorti en juin 2020, il va sans doute falloir attendre un petit peu avant l'arrivée d'une nouvelle galette, surtout dans la mesure où le groupe n'a toujours pas pu défendre les couleurs de ce dernier album sur scène. Une tournée est en revanche prévue pour mars et avril 2022, qui passera par plusieurs villes de France, et par la Belgique, et par la Suisse pour nos amis frontaliers, ou ceux qui nous écouteraient de là-bas.
Ouais, petite précision, la tournée en question se fait encore une fois avec Septic Flèche, qui est aussi personnellement un groupe que j'adore. Donc autant dire que là, je pleure de joie et que je sais ce que je fais de mon 11 mars 2022 à Paris. Oui, parce que personnellement, je crois à la reprise des tournées, presque comme avant, pour 2022. Ça s'appelle de la méthode Coué. Ne me retirez pas ça, je vous en supplie. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour des inspirations... des inspirations diverses et variées, mais quoi qu'il en soit, jamais très très gay, de Cara Kangren. Donc, nous allons désormais passer à notre rubrique traditionnelle. Vous écoutez quoi en ce moment, Alessia, de ton côté ?
Alors, pour ma part, j'ai beaucoup écouté le nouveau Trivium. Première écoute, donc juste le premier single, puis j'ai dit moi, la chanson était classique. On était en train de l'écouter à la maison et on regardait le clip. Et on s'est mis à faire, et là, le break, et là, break, hop, ah, reprise sans batterie, ah, reprise sans batterie. Et on s'est dit, non les gars, non mais non. Et une fois que l'album est sorti, je l'ai écouté du début à la fin, et là c'était reparti en fait. Il y a vraiment, enfin, je trouve que c'est un ensemble qui, l'album tient très bien la route tout seul. Vous avez la première chanson qui vous met dans l'ambiance et une instru qui permet de vous immerger vraiment dans ce qui va venir après. J'ai dû écouter The Shadow of the Abattoir une bonne centaine de fois et je ne m'en lasse pas. Je ne mens pas, c'est Deezer qui me l'a dit. Alors bon, par contre, mes voisins s'en laissent peut-être par contre, mais tant pis. Voilà, tant pis pour eux. Je trouve que le groupe n'a cessé de progresser. Alex Bent, qui est leur batteur depuis 2017, a vraiment apporté une autre dimension au groupe et j'espère une stabilité. Ça serait bien. Et la voix de Matt Heafy m'a complètement surprise sur cette chanson-là, justement. Enfin, je vous laisse l'écouter, mais vraiment, ça rappelle justement là, un peu la voix qu'il avait lors de sa chanson avec Nergal sur le premier volume de Me and That Man. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Et là, j'étais... ça fonctionne extrêmement bien avec la chanson. Et elle prend des détours inattendus. Donc, j'aime quand une chanson me surprend et m'emmène dans plusieurs directions. Voilà. Je pense vraiment que c'est une des meilleures chansons qu'ils aient écrites jusqu'à présent. The Phalanx me plaît aussi. En fait, c'est une ancienne chanson qui avait été laissée en friche. À la base, je crois, pour une démo, je ne sais plus. Mais en fait, ils l'avaient laissée en chantier, ils l'ont retravaillée. Notamment, c'est Izan qui a retravaillé la chanson. Donc, du groupe éponyme et de Emperor. Et boum! Très très efficace aussi et c'est une chanson qui est liée à The Elder Scrolls Online, donc pour ceux que ça intéresse je pense que le clip pourrait vous plaire parce que voilà, et donc ça marche très très bien. Je me fais une joie de les voir en concert aussi avec Heaven Shall Burn, dont j'avais beaucoup aimé le dernier album également, donc là voir les deux en concert j'étais ravie et le concert d'annuler. Donc c'est pour ça, j'aime bien ta méthode Koué, mais là j'avoue que j'en aurais pleuré tellement j'en pouvais plus quoi. Enfin clairement je me fais une telle joie de retourner en concert dans une vraie salle de concert avec des vrais gens et des vrais groupes que j'aime, et là ah bah non.
Oh bah m'en parle pas, hein. Nightwish, la tournée de Nightwish est réduite à peau de chagrin et ils passeront pas par Paris, donc oui j'en aurais pleuré aussi, oui effectivement.
Ah ouais non mais.
Donc je te comprends.
Ah ouais c'est ça. Puis quand il a expliqué que bah oui ça devenait, c'était trop contraignant de quitter les, parce que là ils sont en train de tourner en plus, ils tournent aux États-Unis.
Aux États-Unis ouais.
Et tu fais mais. Et bref, évidemment, j'attends aussi le nouvel album de Me and That Man, mais tout le monde n'a pas la chance de le recevoir en avance, donc j'attendrai, j'attendrai qu'il sorte. Hein. Sinon, ma surprise pour le 11 novembre, c'était la nouvelle chanson de Korn. Voilà, Start the Healing. Donc, je reçois un email. Surprise, on est là, on a une surprise pour cette nuit. Ok. Donc j'avais mis une alarme, mais faut quand même pas déconner hein. Un 11 novembre à 6h du mat, j'étais pas là. Mais voilà, c'est une chanson qui est étonnamment positive et optimiste. Et le clip est à l'avenant. Il met en scène une mort cathartique, puis laisse place à littéralement la lumière et dans une envie de mettre en scène cette renaissance. Donc du coup, je suis assez curieuse de voir ce qu'amènera ce nouvel album, donc, qui s'appelle Requiem et qui est prévu pour février 2022. On place beaucoup d'espoir sur 2022, là, dis donc. Hein. Mais on verra ce que donne
cet album. Il faut ça, hein, sinon on va se mettre dans une grotte jusqu'à 2025 et on n'a pas fini.
Non, mais si Korn se met à faire des chansons optimistes, là, c'est qu'il y a un problème.
Oh mon Dieu, le monde va s'effondrer.
Il y a un problème. Mais non, elle est, voilà. Pour ceux qui aiment Korn, vous ne serez pas déçus. Et je pense que si vous aimez Korn, vous l'avez déjà écouté. Mais pour les autres qui auraient la curiosité d'y aller, elle est vraiment très chouette.
Pour ma part, ça va être simple et un petit peu plus court. Depuis le dernier podcast, j'ai pas écouté grand chose de nouveau en fait. La faute aux albums de Karakangan que je ne connaissais pas du tout. Et que je me suis attelé à écouter en général plusieurs fois, en alternant avec des chansons que j'aime depuis longtemps quand ça devenait trop dur de continuer à écouter du black metal pour mes petites oreilles. Donc j'ai pas écouté grand chose de neuf, sauf la chanson Christmas Truce, la dernière chanson de Sabaton, axée sur la fameuse trêve de Noël qu'il y a eu pendant l'hiver 1914, je crois. Au moment du coup de la Première Guerre mondiale, qui a donné aussi lui au film Joyeux Noël qui était sorti en 2005 et que cette chanson aurait joliment mis en musique s'il avait déjà été sorti à l'époque. C'était pas de chance, ce n'était pas le cas. Mais c'est une très chouette chanson dans le plus pur style de Sabaton. Si vous aimez ça, ça peut que plaire. Et de ton côté, Safran ?
Alors en ce moment, j'écoute en boucle sincèrement les deux albums que j'attendais avec le plus d'impatience cette année. Donc primo, le nouveau Carcass, Torn Out Trees, qui est sorti en septembre, mais que j'avais eu la chance d'avoir un peu d'avance pour préparer une interview avec Bill Steer, donc le guitariste de Carcass. Oui, j'ai communiqué avec Bill Steer et non, je ne m'en suis toujours pas tout à fait remise et c'était au mois d'août, alors je vous laisse imaginer l'effet que ça m'a fait. Après 8 ans d'attente, depuis le dernier album, c'est franchement un vrai bonheur pour les oreilles. Et si Surgical Steel était Heartwork Part 2, en fait, Torn Arteries, c'est Swan Song Part 2. Et comme je fais partie des apparemment très rares personnes qui adorent Swan Song, pour moi, c'est un vrai compliment. Donc, j'ai écouté l'album pour la première fois avec un immense sourire tout du long. Et encore maintenant, quand j'écoute certaines chansons en public, les gens doivent me prendre pour une demeurée, tellement les riffs me mettent en joie, je peux pas m'empêcher de sourire bêtement, quoi. Cet album m'a fait un effet incroyable. Et désolée Alessia, c'est le nouvel album de Me and That Man, donc New Man, New Songs, Same Shit, Volume 2. Que là aussi j'ai eu avec un peu d'avance pour préparer une interview avec Nergal, qui au jour où nous enregistrons ne s'est d'ailleurs toujours pas concrétisé, hein, parce que le garçon te donne ses disponibilités d'interview au mieux la veille pour le lendemain et au pire le matin pour le soir. Donc quand tu as un boulot à plein temps, c'est pas une évidence. Enfin bon, bref.
Il fait beaucoup trop de yoga, c'est pour ça.
Il fait trop de yoga, il est trop occupé, il vend trop de t-shirts et mais c'est vrai, non, mais Nergal a un emploi du temps de ministre. Je sais, ce mec bosse tellement, je ne sais pas comment il fait pour être encore sain d'esprit, quoi. Enfin, alors, bon, bref.
Mais pour ceux qui ne sauraient pas, il vend vraiment ses t-shirts. Il faut quand même l'expliquer. Quand même. Il a une collection, il a dit quoi, 500, 600 t-shirts à peu près de métal. Et donc, du coup, il a décidé de vendre certains de ses t-shirts. Et donc, sur Instagram, il présente ses t-shirts.
Et il les vend.
Ce qui va mettre en vente, voilà, c'est une pièce très rare. Donc, si vous voulez un t-shirt de Nergal, il n'y a pas de problème.
Le mec, il doit avoir 18 comptes Instagram différents entre les comptes de Me and That Man Webshop, Behemoth Webshop, son compte perso, son compte de t-shirt. Bref, du coup, pour faire des interviews pour son nouvel album, il n'est pas dispo, quoi, en substance. Donc, à l'heure où vous écouterez ce podcast, l'album sera sorti. Il est censé sortir le 19 novembre, si je ne m'abuse. Et c'est une pépite, quoi. Comme les singles le laissaient présager. Et comme pour le volume 1, la qualité des guests est impressionnante. Nergal a vraiment un carnet d'adresses qui fait rêver. Mention très très spéciale à la chanson Goodbye avec Alyssa Wadglouze, donc de Arch Enemy, dont la voix bluesy m'a laissé complètement bouche bée, parce que on est habitué à une Alyssa Wadglouze qui fait des gros rôles, quoi, chez Arch Enemy, et non seulement elle fait ça très très bien, mais aussi elle fait le chant clair avec un talent que j'aurais jamais soupçonné. Donc, personnellement, quand je ferai mon top 5 des albums pour Radio Metal à la fin de l'année, je sais que j'ai déjà deux titres trouvés, parce que ces albums sont vraiment de très très grosses réussites pour moi, qui tournent en boucle actuellement.
Moi, l'avantage du single, c'est que ça m'a fait découvrir, du premier single, Mirkour, c'est ça ?
C'était le deuxième single, mais c'était Mirkour, ouais.
Ouais, ouais. Et du coup, je suis allée écouter par curiosité et j'ai fait « Oh ! Oh !» Voilà, intéressant.
Mais à la limite, j'aime moins le black metal de Mirkour que le... Enfin, je ne sais pas ce que tu as écouté, mais j'aime moins ses albums black metal que le tout dernier album qu'elle a sorti, qui est un album de folk nordique.
Oui.
Ouais, c'est celui-là. Folkzanger, ouais, c'est celui-là.
Ouais, il est très très bien. Mais de toute façon, le côté dark folk est très sympa.
Il est brillant, cet album. Le black metal de Mirkour, je suis moins fan. Mais
Il est plus classique, quoi.
Ouais, c'est ça. Tandis que c'est cet album qui sera d'ailleurs joué apparemment dans son intégralité au Hellfest. Donc ça va être bien. Pardon Alessia, je ne voudrais pas retourner le couteau dans la plaie.
Je viens de manquer d'éclater mon bracelet.
On fera des messages.
J'ai fait ça, on fera des vidéos. Voilà, sur cette digression, nous en arrivons à la fin de notre podcast. On espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu, malgré les sujets pas spécialement riants que nous avons évoqués tout au long de cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires que vous écoutiez depuis Radio Métal, depuis elbakin.net ou depuis la chaîne YouTube de Radio Métal. On se fait toujours un plaisir de les lire, de les prendre en compte et d'essayer de nous améliorer à chaque épisode. Et on vous remercie pour vos retours. Bonne soirée à tous et à très bientôt avec un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Au revoir.
Au revoir.
Enough, Reggie.